Donc, eh bien, notre cher étalon trésorier, Paul Pérez.
Pourquoi t'as moi
et pour ma part, donc, je suis le vice-président du club, donc c'est Michel Ragé. Et notre président du club, donc, c'est Michel Bourus. La particularité des ULM, c'est que vous avez donc plusieurs classes.
Oui.
Donc, vous avez la première classe qui est la classe des paramoteurs.
Oui.
C'est-à-dire, donc, ce sont des ailes delta où la personne a sur son dos donc un moteur donc qui lui permet donc de décoller et puis d'avoir une certaine vitesse en l'air.
Oui. Et surtout d'atterrir.
Oui, parce qu'on se sert du moteur pour atterrir aussi. Voilà. Ensuite, vous avez les panoulaires, donc c'est l'aile delta, donc qui est avec donc, toujours donc, un moteur, c'est tout motorisé. Vous avez des multi-axes, donc qui ressemblent à un avion, qui est un avion, sauf qu'ils sont limités en poids, et ce n'est uniquement qu'une ou deux places. Ensuite, vous avez les autogires, c'est-à-dire, c'est un peu le système des hélicoptères.
Oui.
C'est-à-dire, donc, vous avez des pales. Ces pales, donc, jouent le rôle des ailes, c'est-à-dire substentateurs. Et vous avez un moteur qui lui donne une certaine inertie, une certaine vitesse, qui permet, donc, aux pales de tourner à une certaine vitesse qui va maintenir, donc, l'appareil en l'air. Ensuite, après, vous avez les aérostats, c'est-à-dire, donc, les ballons. On en voit très, très peu. Il y a une société qui est sur Paris qui fait des reportages pour différentes presses qui sont d'ailleurs équipées d'aérostats et de temps en temps ils viennent avec faisant ça pour filmer donc dessus des arènes.
D'accord.
Donc on les voit. Et une sixième classe qui est née donc en début d'année qui est les hélicoptères.
Oui.
Maintenant donc vous avez la classe 6, ce sont des hélicoptères, des vrais véritables hélicoptères, sauf qu'ils sont limités pareil en poids pour une ou deux personnes. Donc, ce qui fait que ça fait un panel qui est très important. La particularité avec l'aviation civile, pour mieux répondre que moi, c'est qu'on a plus de possibilités dans certains domaines de vol. Donc la réglementation n'est pas aussi serrée que dans les ULM que pour l'aviation.
Je vois une réaction.
Pas dans les règles de vol, hein.
Oui, enfin, pas les règles de vol.
Les
entretiens.
C'est pareil que par exemple pour le code de la route. Vous avez une voiture, une petite ou une grosse, c'est pour tout le monde pareil. On doit rouler à droite, il y a des stops, il y a des. Non. Après, c'est au niveau réglementation papier. C'est moins contraignant, c'est-à-dire au niveau des visites, de l'entretien, sur les avions, et ça doit être fait par des ateliers spécialisés, alors que nous, en ULM, on peut se le faire soi-même, à condition quand même que l'appareil soit bien entretenu, et voilà.
J'ai regardé au niveau de la sécurité aussi, c'est très très strict.
Hein. Voilà. Alors, ça, c'est la particularité, bon, on va prendre donc le cas donc, des ULM Albatros d'Auch.
Oui.
Où on a misé sur la sécurité du vol par la sécurité des appareils, priorité, donc un entretien suivi très régulier. On vole avec des appareils qui sont renouvelés très régulièrement, donc ce qui fait que ce sont pratiquement toujours des appareils neufs. Ensuite, la formation, donc OSH est un club qui a été labellisé il y a quelques années, donc ce qui a montré donc l'attachement, donc, au sein de la fédération, mais par ses obligations, puisque c'est comme lorsque vous êtes ISO 9002 ou autre, donc il y a des obligations. Dans le cadre de la labellisation, c'est exactement pareil. Donc il y a des obligations dans l'entretien, il y a des obligations dans la formation, il y a des obligations dans l'accueil du public. Donc tout ça donc, a fait que ben, on a donné un plus au club. Donc on a un suivi qui est très, très sévère dans le cadre de la formation. Mais également, une fois que la personne est lâchée, c'est-à-dire une fois que la personne vole de ses propres ailes, l'instructeur a toujours quand même un regard pour savoir si ça va pas, ou autre. On fait participer donc, après la personne, comme c'est une association, donc à la vie associative, c'est-à-dire que bon, dès qu'il y a quelque chose, de le dire, de participer. Lorsque, en fin d'année, on va renouveler l'appareil, donc là c'est pareil, on commence à regarder, mais après, donc, c'est quelque chose qui se fait donc dans la globalité de l'association. Voilà, parce qu'on tient aussi à ce côté associatif. On ne veut pas que ça soit comme on connaît, donc des clubs privés, des clubs privés qui font que il n'y a pas ce petit côté amitié, sympathique, Gersois, Gascon, quelque chose d'important.
D'accord. Voilà. Vous êtes combien licenciés dans votre asso, justement?
Ça, c'est difficile, c'est-à-dire licenciés fédération nationale, on est actuellement 43 ou 44. Ouais. Comme ça. Alors après, des gens au club qui volent, on est entre, ça dépend, 70, 75, parce qu'il y a des personnes qui viennent voler, qui ne pilotent pas, qui ne sont pas pilotes, mais qui viennent voler de temps en temps, c'est-à-dire avec l'instructeur, où ils viennent faire un tour, ils payent leur vol, et puis voilà. Donc ils font partie de l'association, mais ils ne sont pas inscrits au niveau de la Fédération Nationale comme pilotes, étant donné qu'ils ne sont pas pilotes, mais voilà. C'est comme vous, si vous voulez aller faire un tour avec une Jaguar ou avec une Mercedes, vous allez louer la voiture avec le chauffeur, il va vous faire un tour, et puis voilà. C'est pareil. Voilà.
Je voulais vous demander, à partir de quel âge on peut commencer?
Donc, pour piloter un ULM, il faut être âgé de 15 ans. Voilà. Donc, je vais vous donner à peu près la définition. Puisque un ULM, donc, pour qu'il soit classé ULM, c'est-à-dire ultra léger motorisé, donc un ULM doit peser au décollage un maximum de 300 kg pour monoplace et 450 kg pardon, pour un biplace. Sauf s'il est équipé d'un parachute, donc là, on a droit donc, à une masse supplémentaire. Il doit pouvoir se poser donc à une vitesse inférieure à 65 km/h. Et ce sont des caractéristiques donc c'est ce qui le différencie donc d'un avion et d'un planeur. Donc pour piloter un ULM, donc il faut être âgé de 15 ans. Le brevet comporte donc un examen théorique, un tronc commun à toutes les classes d'ULM. Sont des questions sur la météo, sur la mécanique, sur les domaines de vol des appareils, sur la sécurité. Donc après, c'est un QCM. Donc la personne va passer à Toulouse, donc au centre d'examen aéronautique, va passer donc cet examen théorique. Et ensuite, après, il y a une seconde partie qui est consacrée à la pratique. Alors là, c'est consacré donc à la pratique par classe. C'est-à-dire, autant le théorique, c'est valable pour les 6 classes, autant après, donc, la partie pratique, elle est valable pour chaque classe. Donc, et ensuite, elle est validée par un instructeur de type ULM choisi. Et le brevet donc, de pilote ULM est valable à vie. Il n'y a pas de visite médicale aéronautique, sauf la première année, lorsque la personne donc, va faire son inscription. Donc il faut qu'il soit déclaré par un médecin comme quoi la personne est apte à piloter. Donc l'examen pratique donc, par classe se déroule à la fois au sol et en vol. Donc pour la partie terrestre, ça comporte des questions, donc, comme je vous ai dit, questions théoriques et de mécanique de vol. Et la partie aérienne, sanctionnant la formation en vol au pilotage, jusqu'à l'obtention par l'élève des qualités requises pour voler en sécurité et ainsi devenir pilote. Et par la suite, après un certain nombre de vols, d'heures de vol, il repasse encore un examen. Et à partir de là, donc, l'examinateur va dire, bon, maintenant, vous pouvez amener des passagers.
Oui, c'est validé, et puis voilà.
Voilà. Il y a un suivi qui est très sévère, très, très sûr. Tout ça pour éviter donc, tout problème, c'est pour la sécurité donc, de la personne. Il est vrai que, on va prendre dans les années 80, puisque là c'est la première fois où je suis monté dans un ULM, c'était des briques et des brocs, quoi, hein, c'était le balbutiement. Quoi. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Vous avez des appareils.
Désolé.
Ouais, il y a des appareils, on va dire que, donc là, le dernier appareil qu'on est en train de voir, ce sont des appareils qui sont en Kevlar, en carbone, en nid d'abeille, en sandwich composite, c'est du matériel aéronautique, ce sont des moteurs Rotax, c'est-à-dire ce sont des moteurs qui sont sur beaucoup d'appareils, avions ou autres. Donc c'est quelque chose donc, qui est maintenant très très sérieux. Tant dans la conception de l'appareil, tant dans la formation du pilotage, tant dans l'utilisation donc, de l'appareil.
Oui.
C'est comme en voiture, c'est pareil. Lorsque vous voulez seul, c'est votre vie. Mais lorsque vous amenez quelqu'un, vous avez un passager. Et ensuite, après, il y a l'appareil aussi.
Oui. Et ça reste quand même un milieu...
Très ouvert. Pas du tout. Non, je vous vois venir. Non, non, pas du tout. Non, non, au contraire. Au contraire, on aime bien qu'il y ait du personnel féminin, parce que souvent, on fait des repas, on nous manque des mains pour faire la plongée. C'est... Non, non, pas du tout. On est... Non, non, c'est pas du tout macho. Au contraire, c'est quelque chose qui est très ouvert. L'avantage en plus, bon, c'est vrai que la base d'Auchlamotte, bon, on a la chance, c'est qu'on a une superbe base où on s'entend avec tout le monde,
ouais.
Quel que ce soit les professionnels, etc. Donc, bon, ça nous arrive de manger ensemble, donc c'est quelque chose d'intéressant. Mais il est vrai que dans le domaine aéronautique, il y a un pourcentage de femmes sont peu représentées par rapport aux hommes. Au contraire, c'est pour ça que dernièrement, le club de planeurs avait fait donc un week-end femmes.
D'accord.
Justement pour ça. On a quelques femmes au sein du club, mais bon, c'est vrai qu'on en aurait plus, ça serait mieux. Hein. Oui, parce que ça mène, bon, mis à part le côté féminin, mais ça mène toujours de bonnes idées.
En principe, elles sont plus douées que les hommes.
Ah, c'est gentil.
À condition... Si, si, c'est vrai. C'est pour le pilotage. À condition qu'elles n'aient pas peur du sol et de... Autrement, après, en finesse de pilotage, je ne parle pas pour le théorique, tout ça, ça c'est chacun. Il y en a qui a une quille mieux les uns que les autres. Je parle au niveau finesse pilotage. Mais bon, c'est vrai que certaines ont peur du sol. Quand on arrive, qu'on voit arriver le sol, on a toujours l'impression qu'on va se planter, qu'on va taper dedans. Donc, ils refusent. Mais sitôt qu'ils ont assimilé ça, que l'appareil est fait un arrondi et se pose, après c'est, c'est plus fin, elles sentent, je sais pas comment dire,
elles ont plus de sensibilité.
Voilà, voilà, elles ont
plus de sensibilité au niveau donc des.
Et puis c'est pas.
C'est
pas non, mais c'est pas un truc. C'est le manche, on le remue pas demain. Je veux dire, il faut pas avoir des muscles comme ça pour. Pour voler, pour piloter, quoi.
Non, non, c'est très sensible, on bouge pas de
quoi. Voilà, le manche, c'est quelque chose de... Bon, il faut tirer un peu, si jamais on va vite, plus ça va vite, plus c'est dur, mais c'est... Même pour une femme, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de problème pour piloter.
Et les enfants apprennent très très vite,
les jeunes. Ah oui, les jeunes. Oui. Ah,
vous avez des jeunes qui vont mettre 2-3 fois moins de temps que les autres. Hmm. Vous avez des jeunes qui, au bout de 2 heures de formation, l'instructeur est à côté, il ne touche pratiquement pas. Je ne parle pas de la génération joystick,
ouais.
C'est pas du tout ça. Mais ils n'auront qu'une appréhension.
Oui.
Voilà. Pour eux, c'est parce que naturel. Voilà. Donc, et c'est là la particularité, l'avantage qu'il y a pour un jeune, c'est-à-dire que pour un jeune de moins de 25 ans, il peut bénéficier donc d'aide.
Ouais.
De bourses qui sont données donc par différents organismes qui font que il peut aller avoir jusqu'à 550 euros donc de subvention, ce qui fait que pour un jeune pratiquement c'est un brevet qui peut lui coûter pas cher du tout puisqu'il va avoir moins d'heures de vol.
Donc, voilà, quoi. Il y a quand même un minimum, mais il ne faut pas dire qu'au bout de 2 heures, il va partir tout seul.
Non, oui, non, mais j'imagine
bien. Il faut quand même une quinzaine ou une vingtaine d'heures, parce qu'après, il y a la navigation, il y a tout ça, c'est des choses qui s'apprennent. Quand on est à l'air, on ne peut pas se permettre de s'arrêter pour regarder la carte, voir où on va et où on est, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est des... Et disons que quand on débute, ce n'est pas le plus facile. C'est beaucoup plus facile à faire les tours de piste, à décoller, à atterrir, que de faire la navigation.
Ouais, parce que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc
oui.
En plus déjà, donc, au niveau de l'oreille interne, donc, c'est plus calé. Donc ce qui fait que c'est quand on voit d'en haut, bon, au début, ben, tout se ressemble. Donc là, bon, ça s'apprend, mais c'est vraiment intéressant. Bon. Déjà en plus, vous avez beau voler tous les jours,
oui.
C'est jamais pareil. La lumière... La hauteur où vous êtes ou autre, fait que le paysage n'est jamais le même. Et puis vous apercevez, bon, déjà, pour le Gers, c'est quelque chose de magnifique.
Mmh. Vu d'en bas, déjà, moi je trouve magnifique alors.
Le Gers, vu d'en haut, c'est vraiment magnifique. On a un choix de couleurs, on a la morphologie du terrain et autres, ce qui fait que, bon, on aimerait que le vol continue. Non, bon, ça, c'est ça.
Généralement, un vol dure combien de temps?
Ça dépend de la personne. Dans la formation, la formation au début, va faire des périodes, mettons, de 15 ou 20 minutes. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'arrive un moment où l'élève va commencer à saturer. C'est-à-dire que l'instructeur va s'apercevoir que mais il y a certaines erreurs qui vont recommencer. Bon, ça, pourquoi? Parce qu'il y a saturation, donc ça, hop, il se pose, et puis bon, il attend, ou il revoit le lendemain, ou peut-être un temps après. Mais sinon, autrement, vous pouvez voler pendant 2, 3, 4, 5, 6 heures. Oh. Vous savez, vous avez des appareils, comme des autonomies, des météores. Vous savez, un ULM, c'est un avion qui a deux places, bon, qui est plus léger, mais... Vous pouvez voyager. Quoi. Et il y a d'ailleurs beaucoup de personnes qui voyagent avec des ULM. Et même professionnellement.
Oui.
Ouais. On a eu encore un appel là tout à l'heure d'une personne qui va venir de Bordeaux pour des raisons professionnelles pour venir se poser à Roche. Et qui est avec un ULM. Parce que c'est vrai que le coût d'entretien est bien moins élevé qu'un avion. Et après, pour un jeune, après, s'il veut, il peut aller faire la compétition.
Comment se passent les compétitions?
Alors, les compétitions, donc vous avez des compétitions régionales et nationales, ce sont différentes épreuves. Mm-hmm. Donc, ça va jusqu'à 15 épreuves, où dedans, vous avez la précision d'atterrissage, des décollages courts, beaucoup de navigation, des vols d'économie, des vols où on va lier donc plusieurs, que ce soit l'économie, plus l'obligation de faire un maximum de distance, ou rester en l'air le plus longtemps possible avec une quantité d'essence limitée, mais en rentrant toujours avec la marge de sécurité obligatoire. Donc tout ça, ça vous donne des points, et c'est le total des points qui va décider qui est le champion.
D'accord.
C'est quelque chose d'intéressant, de stressant, mais qui apporte énormément au pilotage. Voilà.
Alors c'est régional, national, européen et international. Pour celui qui est le bon et qui a moyen financier aussi. Parce que ça coûte quand même.
Voilà. L'inscription, coup, j'imagine.
Hein. Non, c'est pas l'inscription, c'est le déplacement. Quand vous allez en Russie, quand vous allez en... C'est pas à la porte à côté, donc... Alors évidemment, la fédération paye, je pense, certains... Mais enfin, il faut quand même ajouter, quoi. C'est pas tout gratuit.
Voilà. Donc on a eu la chance à Roche, c'est que donc, moi et d'autres personnes, on a fait des championnats, et on a eu donc des aides du Conseil Général.
D'accord.
Du Conseil Général, de la mairie.
Oui.
Et ainsi qu'un partenaire privé qui nous a permis donc de faire un championnat du mieux possible.
Et c'est bien alors. Ça s'est bien passé?
Oui, on a été champion de France en classe B.
Bien. Félicitations.
Non, c'est le club, c'est, vous savez, il n'y a pas que les personnes.
Pour les différents
sponsors, ce qui nous a aidé, ça a été super. Non, c'est... Et puis, bon, on a un club qui, vraiment, marche bien, qui est vivant, où tout se fait.
Votre numéro de téléphone?
0562 63 18 80.
D'accord. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter?
Ah, oui, beaucoup de choses. Mais non, ce qu'on veut dire par là, c'est que le club est ouvert tous les jours.
Oui.
Donc, nous sommes ouverts tous les jours, on reçoit tout le monde tous les jours. La particularité qu'il y a, c'est que si les gens se posent des questions, veulent savoir ou n'importe quoi, ben nous on est toujours là donc pour les renseigner, leur faire soit un baptême, soit leur montrer l'appareil, soit leur expliquer la mécanique de vol si jamais ils ont peur ou autre. Parce qu'on a ce côté associatif qui est pour nous qui est très très important.
D'accord.
Et on a la chance d'être dans un département donc, qui est associatif, où on a donc différents organismes qui nous aident donc, à évoluer dans tous les domaines, hein, que ce soit dans la formation, que ce soit dans la compétition, que ce soit dans la gestion par elle-même donc, d'un club. Et pour ça, donc, on a la chance d'être dans un super département. C'est pas parce que je suis originaire de cette génération, mais c'est vrai. Comparé à différents départements ou même différentes régions de France, même d'outre-mer, on est vraiment mieux logé. On a la chance d'avoir un monde politique qui a attaché justement ces associations pour qu'elles vivent le mieux possible. Avec un certain regard, ce qui est tout à fait normal. Donc, voilà.
D'accord.
Donc nos portes sont toujours ouvertes, même si de temps en temps on fait des portes ouvertes, mais la particularité c'est que la plus grande elle est ouverte tout le temps.
C'est gentil.
Et merci donc.
Merci. Donc,